Bonjour, bonjour à toutes et à tous, où que vous soyez sur la planète. Bienvenue sur RFI, les 16h, temps universel, 17h à Paris.
Le journal, en français facile.
Adrien Delgrange.
Accompagné aujourd'hui de Vanda Marsadier. Bonjour Vanda.
Bonjour Adrien, bonjour à tous. Nous sommes le mardi 10 janvier au sommaire de cette édition.
Deux jours après l'assaut de Brasilia, le déferlement des partisans de Jair Bolsonaro sur les institutions brésiliennes. Jair Bolsonaro, l'ancien président qui est aux États-Unis en ce moment, pourrait rentrer dans les prochains jours au Brésil. Dans cette édition aussi, soyons honnêtes, l'armée ukrainienne se bat avec bravoure, avec courage contre les Russes. Ce sont les mots de Yevgeny Prigojine, le chef du groupe paramilitaire russe Wagner. Et puis, la retraite occupe et va occuper les discussions des Françaises et des Français. La réforme, le changement des règles de la retraite, ce temps imparti après avoir travaillé toute sa vie, va être présenté dans une demi-heure par la chef du gouvernement. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus.
Jair Bolsonaro envisage de rentrer au Brésil.
Il est actuellement aux États-Unis. Il avait quitté son pays juste avant la prise de fonction officielle du président Lula. C'était le 1er janvier dernier. L'ancien président brésilien indique qu'il pourrait rentrer plus tôt que prévu dans son pays natal, le Brésil, pour consulter ses médecins. Précisons que Jair Bolsonaro est à l'hôpital. Il a été hospitalisé hier en Floride pour un mal de ventre. De toute manière, sa présence sur le territoire américain commence à être mal vue par certains élus américains, surtout depuis les émeutes, les saccages de ses partisans dimanche à Brasilia. Justine Fontaine, bonjour.
Bonjour.
Certains élus, des élus démocrates, proche de Joe Biden, demande à ce que Jair Bolsonaro quitte les États-Unis.
Oui, la députée démocrate Alexandria Ocasio-Cortez a été l'une des premières à réagir. Les États-Unis doivent cesser de donner refuge à Bolsonaro. C'est ce qu'elle a écrit sur les réseaux sociaux dès dimanche soir. Au même moment, un député du Texas défendait la même position à la télévision américaine. Il est vrai que la Floride, aujourd'hui gouvernée par un républicain conservateur, accueille depuis des décennies des opposants au régime cubain ou encore vénézuélien. Mais la présence de Jair Bolsonaro, vaincu lors d'une élection démocratique, met mal à l'aise l'administration de Joe Biden. D'autant plus que juridiquement, les autorités américaines n'ont pas de raison de l'expulser pour l'instant. Jair Bolsonaro est visiblement entré en toute légalité en Floride et à ce jour, aucun mandat d'arrêt ne pèse contre lui. Enfin, si le Brésil demandait son extradition en raison de ses possibles liens avec les émeutes de dimanche, la procédure pourrait prendre des années avant d'aboutir. Adrien.
Justine Fontaine dans le journal En français facile.
Et puis à noter aussi que l'ancien président brésilien Jair Bolsonaro n'a pas demandé la nationalité italienne.
Comme pourtant l'avaient laissé penser plusieurs médias brésiliens. S'il en faisait la demande, il ne l'obtiendrait probablement pas, a déclaré aujourd'hui le ministre italien des Affaires étrangères.
L'Ukraine à présent, pour aider l'Ukraine à se défendre contre la Russie, l'Union européenne et l'OTAN promettent de renforcer leur soutien.
L'UE et l'organisation transatlantique se sont engagés aujourd'hui à fournir aux Ukrainiens tous les moyens militaires nécessaires pour défendre leur pays. Enfin, des discussions sont prévues la semaine prochaine, nous dit-on, sur les types d'armes qui peuvent être fournies. C'est ce qu'annoncent les dirigeants des deux organisations.
Et pendant ce temps-là, dans le Donbass, les combats font rage dans les villes de Bakhmout et de Soledar.
Des combats très durs, des combats meurtriers dans lesquels les mercenaires russes du groupe Wagner jouent un rôle important, un rôle majeur Daniel Valo, bonjour.
Oui, bonjour.
Ce matin, le chef du groupe Wagner, Yevgeny Prigojine, a reconnu que les Ukrainiens se défendaient avec acharnement.
Oui, une déclaration plutôt inattendue de la part de Yevgeny Prigojine, qui n'est pas du genre à vanter les mérites de l'Ukraine. Cité sur les réseaux sociaux par son service de presse, le chef du groupe paramilitaire russe dit que l'armée ukrainienne se bat avec bravoure pour la défense de Soledar et de Bakhmout. Soyons honnêtes, dit-il, les Ukrainiens se défendent avec honneur et les affirmations qui font état de désertion massive sont fausses. Fin de citation. Yevgeny Prigojine, dont les troupes sont en première ligne dans cette bataille pour le contrôle de Bakhmout et de Soledar, une bataille qui semble s'accélérer depuis quelques jours, et cela en faveur des forces russes. En tout cas, les Ukrainiens ont reconnu que la pression était très forte, notamment à Soledar, avec cet enjeu très important pour la suite de la bataille, le contrôle des galeries souterraines qui se trouvent sous la ville, des galeries qui peuvent servir de refuge pour les hommes et le matériel, et qui peuvent servir aussi pour s'infiltrer derrière les lignes ennemies, c'est ce qu'affirme le ministère britannique de la Défense, selon lequel les gains tactiques engrangés ces derniers jours par les Russes leur permettent de contrôler probablement la majeure partie de Soledar.
Les précisions de Daniel Valo.
Ils étaient retenus en Syrie depuis plusieurs années et sont rentrés en Espagne aujourd'hui.
Ce sont 13 enfants espagnols et 2 femmes espagnoles. L'Espagne rapatrie, fait rentrer au pays pour la première fois des femmes et des enfants qui étaient retenus dans des camps de prisonniers djihadistes en Syrie. Leur avion a atterri au petit matin sur un aéroport militaire près de Madrid. Les 2 femmes vont être jugées. Elles sont accusées de collaboration avec une organisation terroriste. À noter que les 13 enfants, eux, ont été pris en charge par les services sociaux.
Le journal en français facile.
RFI Paris, 17h07.
En France, la réforme des retraites doit être dévoilée dans moins d'une demi-heure par la Première ministre Elisabeth Borne.
C'est une promesse de campagne électorale d'Emmanuel Macron. Ce texte de loi devrait notamment reporter progressivement l'âge légal de départ à la retraite jusqu'à 64 ans. C'est un sujet qui divise en France. Les syndicats appellent d'ores et déjà à la mobilisation des salariés avec des manifestations dans les rues, syndicats soutenus notamment par les partis politiques de gauche. Mais que fera l'extrême droite française ? Le Rassemblement national est farouchement opposé à cette réforme. Ceci étant dit, le RN n'appelle pas à manifester dans la rue, comme l'indique le président de ce parti politique, Jordan Bardella.
Nous considérons que la bataille se passe dans les assemblées où nous sommes élus et se passe dans les urnes. Peut-être que certains de nos électeurs, certains de nos adhérents ou nos militants font le choix de participer à ces manifestations, c'est leur choix, c'est leur droit. Quant à nous, nous mènerons l'opposition à l'Assemblée nationale, précisément parce que nous disposons du premier groupe d'opposition, Emmanuel Macron. Et je me permets de vous rappeler que, s'agissant des blocages, nous avons toujours indiqué qu'elle n'était pas le meilleur moyen contester l'action du gouvernement, dans la mesure où elle pénalise bien souvent davantage les Français qui bossent, les Français qui travaillent, plutôt que les gens qui sont à la tête de l'État.
À noter que les principales annonces de cette réforme des retraites en France sont à retrouver dans notre prochaine édition internationale à 18h, heure de Paris.
On parle maintenant trafic international de drogue. De plus en plus de cocaïne passe par la Belgique.
C'est une année record, l'année 2022. 110 tonnes de cocaïne saisies par les autorités belges au cours de l'année dernière. Ce sont 30 tonnes de plus interceptées par les douanes comparées à 2021. La drogue, en l'occurrence une poudre blanche à base de feuilles de coca, est expédiée, est envoyée d'Amérique latine. Elle traverse l'océan Atlantique en bateau pour entrer en Belgique, principalement par le port d'Anvers. Pour faire face à cette augmentation, la Belgique a annoncé recruter une centaine de douaniers supplémentaires afin de renforcer ses contrôles. Toutes ces informations, vous les retrouvez quand vous voulez sur notre site internet. Ce journal, vous pouvez également le lire et l'écouter sur françaisfacile.rfi.fr.